Voilà, j'ai déjà salué ce matin tous ceux qui sont devant leur ordinateur, mais je voudrais aussi saluer ceux qui sont dans la salle du bas. Voilà, merci Seigneur pour les locaux qu'il nous a donnés et qui nous a permis de conserver avec la salle du haut, la salle du bas. C'est une bénédiction. Voilà, il y a de la place. Merci Seigneur. Voilà, nous allons continuer la méditation sur la mission que le Seigneur nous a confiée à chacun personnellement. Et nous allons relire quelques versets du livre des Actes des Apôtres. Plus je médite sur cette vie chrétienne, cette vocation, cette mission que le Seigneur nous donne, et je me dis c'est la plus belle des vies. On ne peut pas s'ennuyer en tant que chrétien. C'est tellement beau quand le Seigneur nous accompagne. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous irons à partir du verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Et nous rajoutons ce texte qui, dans Matthieu chapitre 28, dans les mêmes circonstances, Jésus qui leur parlait, donc Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Jésus a appelé au salut et au service, à la consécration des hommes et des femmes de la même nature que nous, avec les mêmes faiblesses, les mêmes tentations, les mêmes limitations, imparfaits comme nous. Et en lisant avec attention les Écritures, plus particulièrement le Nouveau Testament, en lisant avec attention ce que le Seigneur nous demande, ce qu'il exige, sans nous forcer bien sûr, mais ce qu'il nous demande de mettre en pratique, cela nous semble trop élevé, hors de portée, inatteignable, infaisable. Ce qui pourrait passer pour de l'humilité, en disant « moi je ne me sens pas capable », eh bien, masque notre orgueil. Car tout ce que le Seigneur nous demande, eh bien, nous pouvons l'accomplir. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui l'accomplit en nous et au travers de nous. Et s'il nous le demande, c'est que nous pouvons répondre à cette mission et lui accomplira. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 4, « Cette assurance, nous l'avons par Christ, auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Et il faut que nous en soyons convaincus. Il y a tellement d'excuses ou de prétextes qui viennent dans notre esprit pour ne pas obéir à l'ordre de mission que le Seigneur nous donne. Il y a tellement de choses dans notre esprit et tout cela, eh bien, on le verra, il faut que ce soit balayé parce que tout ce que le Seigneur nous donne, il le donne par grâce et tout ce qu'il nous demande de faire, il le fait au travers de nous. C'est lui. Notre capacité vient de Dieu. Il n'y a pas de fausse humilité qui peut venir là-dedans. Notre capacité vient de Dieu. Et c'est lui qui nous rend capables. Et dans l'Épître aux Éphésiens, dans la merveilleuse prière de l'apôtre Paul, il nous est dit que, eh bien, Éphésiens 3, je crois que c'est au verset 19 et 20, il nous est dit, or, eh bien, le Seigneur va au-delà. C'est lui qui nous rend capables, il va au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons. Alors ce qui nous semble trop élevé, montagne, pourquoi es-tu élevé? Bien Dieu abaisse et nous rend capables. Donc le plus petit au milieu de nous, celui qui se sent mais vraiment indigne et faible au milieu de nous, eh bien il peut répondre à l'ordre de mission quand, ce matin. Il peut dire, Seigneur, voilà, moi je me lève, j'obéis, je veux marcher, je veux voir ta gloire, je veux que tu sois à l'œuvre dans ma vie et au travers de ma vie pour la bénédiction et le salut de ceux qui sont autour. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et il dit, regardez, levez les yeux, les champs blanchissent. Quand nous relisons le livre de Agée, le prophète, il est dit, mais vous vous préoccupez pour beaucoup de choses, pour vous, pour vos demeures, tout cela, quand la maison de Dieu est délaissée, et c'est dans le sens de l'œuvre de Dieu, l'œuvre spirituelle, parce que le temple, bien sûr, nous n'avons plus un temple fait de pierre, mais c'est l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu. Il dit, mais chacun fait, et ce qu'on fait, bien, ça rapporte peu. Que Dieu nous aide ce matin à... Bien sûr, comprendre, nous le savons, mais à nous convaincre. Nous convaincre qu'il faut que nous obéissions à ce que le Seigneur nous demande. Même si je dis, mais moi j'obéis. Mais quand on lit l'Écriture, on voit que ben, vous et moi, nous avons vraiment à faire des progrès dans ce domaine. Donc nous pouvons pas raisonner en nous-mêmes en disant... Je ne suis pas capable, mais c'est Dieu, notre capacité vient de Dieu. Une deuxième objection que nous pouvons mettre en avant quand nous lisons les Écritures, quand nous lisons l'Ancien et le Nouveau Testament, plus particulièrement le livre des Actes, parce que voilà, c'est ce que nous méditons, mais une deuxième objection pourrait dire que les instruments que Dieu a utilisés, les hommes que Dieu a utilisés et les femmes que Dieu a utilisés dans l'Écriture pour accomplir sa mission, son œuvre, étaient des gens supraspirituels hors normes. C'étaient des géants de la foi. Et ça peut nous dire, mais moi jamais, quand je vois ce qu'ils ont, mais jamais je pourrais. La Bible, au contraire, nous montre qu'ils étaient de la même nature que nous, exactement de la même nature. Vous allez me dire, mais quand même Paul, ben il était de la même nature que nous, exactement de la même nature. Dieu s'est servi de lui, Dieu a accompli une grande œuvre, mais c'est Dieu qui l'a faite au travers de lui. Bien sûr, il a eu la foi, il a répondu à l'appel, mais j'allais dire intellectuellement, physiquement, il était comme nous, il avait les faiblesses aussi, les tentations, il avait des états d'âme, que parfois nous lisons dans les épîtres qu'il a écrites, des fois il avait vraiment des choses au fond de lui, mais il n'a jamais été au point d'abandonner, mais il dit... découragés, livrés à nous-mêmes, livrés même à la mort. Quand nous voyons, il disait, nous voyons notre arrêt de mort comme déjà arrêté. Et Dieu l'a toujours secouru, des hommes de la même nature que nous. en parlant, en prenant un exemple, dans Jacques au chapitre 5, verset 17, il s'agit d'Élie. Jacques chapitre 5, verset 17, il nous est dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Élie était un homme de la même nature que nous. Alors sa prière, ou je dirais plutôt Dieu, au travers de sa prière, a jugé toute la terre et a béni ensuite toute la terre. Par rapport à une prière d'Élie, prière de foi, prière persévérante, bien sûr, mais c'était un homme. Et il a vu la puissance de Dieu, non seulement dans cette prière, et nous retrouvons dans le premier livre des Rois, quand nous lisons au chapitre 18 et 19, nous voyons un petit peu le personnage, ce personnage qui était capable de monter dans les tours. Il était euphorique devant les faux prophètes de Baal. Mais nous le voyons de suite après sur une parole de Jézabel, il est complètement découragé, il demande même la mort. Donc c'était un homme de la même nature que nous, avec ses doutes, avec ses moments difficiles, mais il a servi le Seigneur, ou plutôt Dieu s'est servi de lui pour bénir un peuple, et là en l'occurrence il a béni toute la terre puisqu'il y a eu du fruit. Donc il faut que nous soyons convaincus en sortant de ce lieu que tous ceux qui ont obéi étaient des hommes, des femmes de la même nature que nous, avec les mêmes tentations, les mêmes limitations, les mêmes problèmes, peut-être différents sur la forme, les problèmes, mais le cœur de l'homme a toujours été le même, toujours. Et Dieu les a secourus, les a bénis, et ils ont relevé le défi. Il y a un deuxième écueil aussi à éviter, quand nous pensons à la mission du Seigneur, à ce que Dieu a utilisé. Il y a un deuxième écueil à éviter, c'est quand nous regardons les instruments de Dieu, que Dieu a utilisés, et en les élevant, en les déifiant. Ça peut arriver, ça. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, bien sûr, il s'agissait de païens, mais, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 11, alors que Paul vient de prier pour un homme impotent, et Dieu l'a guéri. Acte 14, la foule éleva la voix et dit en langue lyaconienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et ils appelaient Paul Mercure. On en a fait des dieux alors qu'ils ont été utilisés par Dieu. Vous voyez comme la tendance humaine, la religion, la philosophie, tout ce qu'on veut, elle va toujours déifier quand il y a des actes hors normes, quelque chose d'impressionnant. Eh bien, ils vont voir l'homme comme si ça venait de lui. Comme si ça venait de lui. Et Paul leur dit, bien sûr, de ne pas faire cela. Et on voit ce processus se répéter tout au long des siècles. Bien sûr, dans la religion, mais également quand il y a miracle, on va élever, on va faire tout un processus, quand il y a miracle, eh bien pour attribuer une certaine gloire à celui, l'instrument qui a été utilisé pour faire le miracle. Or, nous savons que celui qui fait des miracles, c'est Dieu. Nous savons que la puissance vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Et on pourrait aussi dire pour nous aussi, parfois on a l'impression, on veut, quand on parle de certains instruments que Dieu a utilisés, bien sûr c'est peut-être inconscient, mais les grands réformateurs, des hommes de Dieu qui ont accompli des choses, quand nous lisons les biographies, on a l'impression que c'était inatteignable, hein, inatteignable. Et bien pourtant, quand on voit aussi la vie que ces hommes ont menée, ces grands hommes de Dieu, ces héros de la foi, oui, mais la vie qu'ils ont menée, ils ont eu aussi leurs doutes, ils ont eu leurs souffrances, ils ont eu l'opposition, ils ont eu la persécution, ils ont connu toutes ces choses. Quand on voit, eh bien, ces hommes de Dieu, alors que le Seigneur nous garde toujours, eh bien, d'attribuer la gloire à Dieu. Dans la Bible, il y en a qui ont voulu se prosterner, dit non, je suis un compagnon de service comme vous. Mais jamais, nous devons toujours élever Jésus. Dans notre vie, et aussi au milieu de l'Église, et dans la vie des serviteurs, c'est Christ qui doit être élevé et glorifié, toujours. Parce que, vous savez, on a des traces écrites de certains qui ont accompli des œuvres, mais combien ont accompli des œuvres dont personne ne sait, et des œuvres grandes, et personne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de livre écrit. Il n'y a pas eu de... Et pourtant, peut-être dans le secret, dans la discrétion, des hommes, des femmes ont accompli des choses extraordinaires dans le témoignage, dans le service de Dieu, dans les bienfaits qu'ils ont accordés, dans la compassion. Des gens, toute leur vie, ont travaillé peut-être dans le secret. Ça, c'est enregistré dans le ciel. Et c'est là où c'est bon, quand c'est enregistré dans le ciel. Au moins, on est sûr que, eh bien, ils ne vont pas être élevés. Donc, des instruments de la même nature que nous. Notre écueil à éviter également, c'est de ne voir que la faiblesse et les limitations, les manquements des serviteurs qui ont servi, qui se sont levés, oubliant que c'était des hommes, simplement des hommes que Dieu utilise. Élie a eu sa faiblesse. Jean-Baptiste dans la prison, pourtant, il a eu un ministère tellement précieux. Mais dans la prison, il a douté même de Jésus. Est-ce que c'est vraiment celui qui devait venir? Alors qu'il l'a annoncé comme celui qui devait venir, il a aplani les sentiers, il a prêché, il a baptisé. Et là, il dit, mais est-ce que c'est vraiment celui qui devait venir? Quand on voit un petit peu plus loin Pierre était aussi... en haut, en bas, indécis, et puis il fonçait, il agissait plus vite que ce qu'il pensait. Quand on voit Jean-Marc qui a abandonné Paul pour retourner à Jérusalem, et bien des années plus tard, Paul écrit à Timothée, il dit « Emmène Marc avec toi parce qu'il m'est utile pour le ministère ». Vous voyez ? Et quand on voit Paul et qu'on lit ce que Paul a écrit, on se dit, mais il était parfois livré au tourment. Et pourtant, Dieu l'a utilisé. Et de quelle façon? Je rappelle que 13 épîtres ont été écrites par Paul du Nouveau Testament. Sur 27 livres du Nouveau Testament, 13 épîtres ont été écrites par Paul. C'est tout simplement merveilleux. Mais c'est Dieu qui a fait l'œuvre. C'est lui qui l'a inspiré. C'est lui qui l'a fortifié. À vue humaine, il aurait abandonné bien des fois. Mais Dieu l'a fortifié. Donc, souvenons-nous que tous ceux qui ont obéi, qui ont relevé le défi, tous ceux qui sont partis dans la carrière que le Seigneur leur a ouverte, c'était des hommes et des femmes de l'imitation, imparfaits, de la même nature que nous, et pourtant ils ont vu la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont levés, ils ont obéi. Si on attend d'avoir les forces, d'être parfait, si on attend de tout avoir, d'être bien dans son corps, dans sa tête, non, on ne partira jamais. On n'obéira jamais au Seigneur. Je parle là d'obéir dans la mission que Dieu nous confie. Hein. Je ne parle pas dans la vie de tous les jours, dans la piété, ça c'est chacun qui voit. Hein. Mais dans la mission que le Seigneur nous confie. Donc, Dieu les a utilisés. Rien ne doit nous empêcher d'obéir à la vérité. Tout a été préparé. Dieu a pourvu à tout. Et il crée en nous, nous l'avons lu ce matin, le vouloir et le faire en chacun d'entre nous. Tout est préparé. Quelqu'un pourrait me donner une objection, donnez-moi-la à la sortie, et je vous dirai de suite que ce n'est pas valable. Dieu a tout prévu, tout. Il nous a donné la parole, il nous a rempli de son esprit, il nous a donné l'Église pour nous fortifier, pour être enseignés, pour prier ensemble. Et ensuite, il faut se lever et obéir. Nous prions pour qu'il y ait des miracles. Nous prions pour qu'il y ait des conversions. Et nous faisons bien. Mais Dieu va le faire au travers de chacun d'entre nous. De chacun d'entre nous. Quelqu'un dira, mais moi, je ne sais pas trop parler. Moi non plus. Je ne sais pas trop parler. Quelqu'un dira, mais moi, je suis timide, réservé. Moi aussi. Il n'y a pas, quand le Seigneur nous envoie et qu'on répond, c'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui incline les circonstances. C'est lui qui fait que nous allons rencontrer des occasions. Parce que si nous prions pendant 150 ans, pour que Dieu enfin ouvre quelque chose et nous donne une occasion de... Mais l'occasion nous dit, lève-toi, marche, va, et puis ensuite l'occasion va se produire. Rien ne doit nous empêcher d'obéir à la vérité que nous avons lue ce matin. Des hommes et des femmes faibles, oui, qu'est-ce qui se passe, la joie du mouvement de... Quelqu'un qui se sent pas bien ? Clément ? Okay. Donc, rien. On va peut-être prier pour ce frère, cette sœur qui se sent pas bien. Voilà, si quelqu'un veut le faire spontanément, faites-le à haute voix. Amen. Merci. Amen. Voilà, donc Dieu sait que nous sommes faibles et limités, il le sait, il nous connaît, il nous a créés, il le sait. Et pourquoi le Saint-Esprit a été donné ? Le Saint-Esprit a été donné justement comme cette puissance, cette onction que nous n'avons pas naturellement pour le servir. C'est prévu, Dieu l'a prévu ainsi. Et s'il met en nous cette puissance... C'est vraiment pour le servir, et à ce moment-là, tout devient possible. Une telle puissance n'est pas donnée pour ne rien faire. Ça ne sert à rien. Si on a une voiture et qu'on fait le plein et qu'on ne va pas rouler, on ne l'utilise pas, ça ne sert à rien. On ne l'utilise pas, on ne l'utilise jamais, et on dit, mais il y a le plein. Le plein sert à rouler. Et ensuite, on refait le plein. Et nous aussi, le Saint-Esprit nous a été donné pour le servir dans ce domaine-là, du témoignage, de la mission que Dieu nous a confiée, pour qu'il nous remplisse et qu'il nous renouvelle. C'est fait pour ça, le baptême dans le Saint-Esprit, il nous est dit, et vous serez mes témoins. D'ailleurs, les premiers chrétiens rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Pour eux, le Saint-Esprit a rendu vivant la mission, il a rendu vivant l'Écriture, il a rendu vivant Jésus. Les prières étaient différentes. Quand il témoignait, c'était différent. Quand il priait pour les malades, c'était différent. Parce que le Saint-Esprit a rendu vivant toutes ces choses. Sinon, c'est simplement des mots, des paroles que nous disons. Mais ce qui fait toute la différence, c'est le Saint-Esprit. Quand nous suivons les apôtres, les disciples, les premiers chrétiens, nous les suivons dans leur marche, dans le processus spirituel, eh bien, nous pouvons voir le processus. Jésus les a d'abord appelés. Il les a appelés, les premiers serviteurs, les premiers disciples, les premiers apôtres. Il les a appelés. Marc 3, 14, il les établit, il en établit 12, pour les avoir avec lui. Voilà la première des choses. Les avoir avec lui. ils ont été d'abord avec lui. Ils n'ont rien fait, mais ils étaient avec lui. Et ils l'ont admiré, ils l'ont contemplé, ils ont vu sa gloire, ils ont vu, eh bien, que cet homme, Jésus, était différent de tous les autres. Ils ont vu que cet homme avait la plénitude de l'Esprit. Ils ont vu qu'elle était différente des autres. Et quand Jésus a prié devant eux, ils ont dit, « Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Comment ça se fait ? Ils priaient déjà. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont aperçus qu'ils ne savaient pas prier, ou plutôt que leur prière n'était pas comme celle de Jésus. Jésus a prié d'une manière différente. Pourquoi ? Parce qu'il avait une communion avec le Père, une intimité avec le Père. Il avait la plénitude de l'Esprit. Et la prière, c'était tout à fait différent. C'était quelque chose comme le ciel qui était sur la terre. C'était comme quand il priait, si Dieu était là, présent, et c'était la réalité. Et les disciples ont été impressionnés à l'unisson. Ils ont dit, « Maître, enseigne-nous à prier. » Sous-entendu, ben, nous ne savons pas prier. Ils ont été convaincus que leur prière, elle ne touchait pas le haut du plafond. Ils ont compris. Et ils ont dit, « Maître, enseigne-nous à prier. » Ce n'était pas seulement d'un enseignement dont ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est ce qui a fait toute la différence dans leur prière, dans leur vie, dans leur marche. Ça a fait toute la différence, c'est d'être remplis du Saint-Esprit. Ça change quand même des prières qu'ils avaient l'habitude d'entendre, religieuses ou des païens, qui à force de paroles croyaient qu'ils allaient être exaucés. Ensuite, ils l'ont entendu parler, enseigner et manifester la vie d'en haut autour de lui, par des guérisons, des miracles, des paroles de vie, des paroles de consolation, des gens retrouvaient espérance. Pourquoi ? Parce que ces paroles, elles étaient empreintes du Saint-Esprit, il avait la plénitude. En fait, il a été oint pour cela. Il a été oint pour cela, c'est son ministère, il a été oint. Et nous trouvons cela dans l'évangile de Luc au chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 18, nous lisons que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, commença, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, etc., etc. Il a été oint pour cela. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10 et verset 38, il nous est dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Il a été oint pour cela. Et le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit pour cela. Il nous baptise de l'Esprit pour cela, pour cette mission. Vous allez me dire, mais moi je ne suis pas appelé. Si, si, il n'y a pas d'appel particulier. Il y a un appel particulier pour un missionnaire, un pasteur, ou voilà, il y a un appel particulier. Mais pour être témoin, c'est chaque croyant. Chaque croyant doit être rempli du Saint-Esprit et doit, eh bien, accomplir l'ordre de mission de Jésus d'aller, de témoigner, de prier pour les malades. Dieu nous remplit du Saint-Esprit pour poursuivre l'œuvre, la mission que Jésus a commencé, nous l'avons lu, ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Les premiers chrétiens l'ont fait. Ils sont partis sans savoir, ils ont témoigné et Dieu a confirmé. Dieu a confirmé leur témoignage par des actions de Dieu. Ils ont décidé d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et dans bien des situations, l'apôtre Paul dira, mais c'est vrai que pour accomplir cette œuvre, on ne peut pas vivre pour soi. Vivre pour les biens d'ici-bas, vivre une vie complète, et il n'y a pas de place pour la mission. Alors là, je veux de suite ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas quand j'ai l'occasion de témoigner une fois comme ça. Ce n'est pas ça la mission. La mission, c'est d'aller, de prier pour, de jeûner pour, de chercher, de, voilà, des occasions, Dieu va les mettre devant nous. Dieu va les mettre. C'est sûr et c'est certain. Si nous sommes, désirons être remplis de l'Esprit pour obéir à cet ordre de mission, je ne dis pas dans la piété personnelle, hein, ça, chacun est responsable devant Dieu, mais dans la mission, ça c'est à l'extérieur, ça se voit, ça s'entend, voilà, notre objectif c'est cela, c'est que des hommes et des femmes soient sauvés. C'est que des jeunes et des moins jeunes se convertissent. Par qui ? Par chacun d'entre nous. C'est les brebis qui produisent d'autres brebis. Paul dira dans le livre des Actes, vous allez dire oui, mais Paul avait un ministère particulier, et c'est vrai. Sur la forme, jamais aucun de nous n'aura ce ministère-là. Mais Paul dira dans Actes 20-24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, pourvu que j'accomplisse. » Voilà son objectif. C'est sûr et certain que personne au milieu de nous aura le ministère de Paul, hein. Ça c'est clair, parce qu'on voit la puissance, mais on voit aussi les souffrances. 3 fois il a été laissé pour mort. Hein. Bon, ça c'est pas ça. Mais dans l'esprit, dans l'état d'esprit, il dit, c'est pas comme si ma vie elle était précieuse. Ce qui est important pour moi, c'est que j'obéisse au Seigneur. Voilà, ça veut dire ça en gros. Pas sur les circonstances que Paul a traversées, mais sur là où Dieu m'a placé, pourvu que j'accomplisse la mission que Dieu m'a confiée. La vie chrétienne, la mission, la vocation que Dieu nous a adressée à chaque croyant nécessite bien sûr un renoncement, une abnégation, la mort à soi-même pour vivre une vie nouvelle, la vie de Christ en nous, la vie de l'Esprit, être rempli. Les deux ne peuvent pas cohabiter. On ne peut pas être plein de nous-mêmes et plein de l'Esprit. On ne peut pas être rempli de tous les soucis, les joies, les trucs de ce monde et être rempli de la mission que Dieu nous confie. On ne peut pas, ça ne peut pas aller ensemble. Bien sûr, on remercie Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Il faut un équilibre, bien sûr. Pour tout ce que Dieu nous a donné, pour tout ce qu'il nous donne, on le remercie chaque jour. Pour la santé, pour la liberté que nous avons, pour les biens qu'il nous a confiés, mais il ne faut pas que ce soit un but en soi. Notre but, ma vie, c'est Christ. C'est de servir le Seigneur. Et ça, il ne faut pas que ce soit très, très, très ponctuel, mais c'est dans notre vie de tous les jours. Moi, je suis convaincu que Dieu va confirmer sa parole. Confirmer sa parole. Quand nous nous levons et que nous allons, Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas où, comment, mais je me lève, je veux t'obéir. Je ne veux pas perdre de temps. Seigneur, dans le ciel, tu me demanderas la gestion de mon temps, de mon argent, de mon énergie, de tout ce que j'ai reçu en enseignement, tout ce que nous recevons en enseignement. Nous savons beaucoup de choses. Mais il faut que ces choses, elles soient maintenant mises en application et qu'elles soient en bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Combien ça va être extraordinaire de voir des gens qui ont reçu le témoignage, dire « mais j'avais parlé, et là ils ont refusé. » Et puis là, je parle à quelqu'un, il est convaincu, et il m'a dit je veux venir avec toi. » On va le voir ça. On va le voir. On n'a pas besoin d'attendre qu'on soit parfait, parce que voilà, on a besoin juste entre guillemets, d'être rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit. Rempli du Saint-Esprit, on peut vraiment accomplir cette mission que Dieu nous a confiée. Peu à peu, l'Église s'est éloignée de la mission originelle. Et l'Église, avec un grand E, s'est affaiblie. Parce qu'il n'y a plus bouillonnement de l'esprit, j'allais dire. Ces cœurs qui sont remplis, qui débordent de l'esprit. Eh bien, en déclinant la mission que le Seigneur nous confie, en la déclinant en activité. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas, c'est pas... Mais pour moi, tout le reste, c'est en plus. Mais notre mission principale, c'est que nous soyons témoins les uns et les autres, que nous gagnions des âmes, que nous prions et jeûnons pour le salut des âmes, et que nous voyons l'action de l'Esprit dans ceux à qui nous témoignons. Si on témoigne à une personne par an, bon, si elle se convertit, merci Seigneur. Mais si on témoigne à 30 personnes, 40, 50 dans l'année, je ne sais pas, il y aura certainement un pourcentage de personnes qui vont se tourner vers le Seigneur. J'en suis convaincu. Chaque croyant de l'assemblée, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé, nous sommes les uns et les autres limités, comme je l'ai dit, faibles, peut-être même dans la crainte, en disant, moi je ne sais pas trop, mais par rapport à cette mission, eh bien, c'est ce que Dieu recherche. Si quelqu'un dit « je suis faible », c'est bon pour le service. Si quelqu'un dit « mais moi je me sens limité, je ne sais pas parler », c'est très bon. Vous voyez, Dieu ne cherche pas des érudits. S'il y a des érudits, ben, merci Seigneur. Mais ce n'est pas leur érudition qui servira, mais c'est les paroles que le Seigneur aura placées dans le cœur. Mais si quelqu'un dit « je suis faible, je suis limité, je ne sais pas parler, je suis timide, je suis... » Ben, c'est bon pour le service. Il n'y a pas beaucoup d'amen, parce que Dieu enregistre. C'est plus que l'enregistrement de... Nous sommes tous dans la main du Seigneur. Faibles, mais remplis du Saint-Esprit, nous sommes forts. Et Dieu peut nous utiliser, les uns et les autres, pour accomplir cette œuvre sur la terre. Dans le ciel, ce sera fini. Il n'y aura plus besoin d'être rempli de l'Esprit, de prier. Dans le ciel, on va adorer. On va servir le Seigneur dans l'adoration. Enfin, je suppose, hein, on verra. Mais il n'y aura plus d'évangélisation dans le ciel. Alors convertissez-vous maintenant, ceux qui ne sont pas encore convertis, parce qu'une fois que le voyage est parti, c'est fini. Et je crois que le Seigneur, vraiment, s'apprête, vous le sentez. Est-ce que vous le sentez aussi que le Seigneur est à la porte? Il est à la porte, il est là et ça presse. Le temps, il ne faut plus le perdre ou le gaspiller pour nous-mêmes, parce que tout ce qu'on aura vécu pour nous-mêmes, ça disparaîtra. Mais toutes ces œuvres qu'on aura faites pour le Seigneur, qu'il a préparées d'avance, elles nous suivront. Elles viendront avec nous. Alors, je le répète, la mission de l'Église à l'intérieur, on le sait, c'est la prière, l'adoration, la communion fraternelle, l'enseignement, la prédication, la Sainte Cène, voilà, ça c'est à l'intérieur. C'est comme ça. Et à l'extérieur, c'est ce que nous recevons, la mise en pratique de ce que nous recevons, l'amour en pratique et le témoignage donné à ceux qui ne savent rien. Nous savons assez pour parler, au moins de savoir ce que Dieu a fait pour nous. Notre expérience de conversion, on peut la dire, on peut témoigner de cela. Je ne sais pas, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Un sondage qui avait été fait il y a quelques années de cela, j'aime pas trop les sondages, mais bon, c'était à titre indicatif, aux États-Unis, il y a peut-être une quinzaine d'années, qui avait été fait sur des milliers d'églises et des centaines de milliers de chrétiens. Ça a pris des années. Simplement pour arriver à la conclusion, et je crois que c'est intéressant de savoir comment une personne est arrivée au salut et au baptême. Comment elle est arrivée? Donc ça a été long, mais il y avait 88% de tous ceux qui sont convertis, qui sont arrivés au baptême, qui ont suivi, c'était par le témoignage personnel d'un chrétien et qui l'a suivi ensuite. 88%. Mission d'évangélisation, activité d'évangélisation, c'était tout ce qui restait, 2%, une recherche personnelle, 1% ou 2%. Enfin, les 12%, ils étaient divisés en toutes ces choses. Mais 88% de ceux qui se convertissaient, c'est par le témoignage personnel des chrétiens de l'Église, remplis d'esprit, qui accompagnaient ensuite ces personnes qu'ils avaient amenées jusqu'à Christ. C'est édifiant, ça nous dit quelque chose, ça. Alors, peut-être qu'on a un peu décalé, on a peut-être passé beaucoup de temps dans des activités, je ne sais pas, il ne faut pas passer du tout au tout, ça ne veut pas dire, parce qu'il y a quand même 2% ou 3% dans les pourcentages de personnes qui sont converties lors d'une activité, une mission d'évangélisation, tout ça, c'est pas... Mais le principal, c'est ce que je fais, moi, là où je suis, là où j'habite, là où je travaille, là où je... Voilà, c'est ça, là où je peux manifester la vie de Christ, là où je suis. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Alors, c'est vrai qu'on se décharge en disant, mais l'évangélisation, c'est tel groupe. Je crois que ça nous a décalé par rapport à l'ordre de mission qui est clair du Seigneur Jésus. À chaque croyant, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, etc., etc. Billy Graham a dit un jour, si chaque croyant amenait une personne au Seigneur par an, en 20 ans, la terre, elle est toute évangélisée. Ça ne semble pas démesuré, une personne en un an. Mais chaque croyant, sur 20 ans, la terre entière, elle est évangélisée. Bon. Alors, balayons de notre esprit tous les obstacles, rien ne doit nous empêcher d'obéir à cet ordre de mission que le Seigneur nous a donné. C'est le but de l'Église à l'extérieur. Quel est le rôle de l'Église? Lumière, sel, témoignage. Voilà, ça c'est le rôle de l'Église à l'extérieur et c'est le rôle de chaque croyant parce que nous faisons partie de l'Église et c'est notre mission à chacun en particulier. Comment je suis faible? Eh bien, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous pousse dans la même direction que Jésus. Que faisait-il le Seigneur? Il allait de lieu en lieu. Est-ce qu'il avait prémédité d'avance d'aller là? Non, le Père le conduisait. Et quand on lui disait, il y a des besoins ici, parce que des besoins, il y en a sur toute la terre, il y a des besoins ici, Jésus dit, non, c'est pas pour eux que je dois aller évangéliser là. Mais tous te pressent, ils disent, mais il y a des besoins, des gens veulent même t'entendre. Non, il faut que j'aille là. Conduit par le Père, conduit par l'Esprit. Et Dieu veut nous conduire par le Saint-Esprit. Et il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui vont se convertir par notre intermédiaire. Vous vous rendez compte comme c'est beau? Quand un homme, une femme se convertit, on a dit quelques mots, on n'a pas dit peut-être grand-chose, et il ne faut pas faire un cours de théologie, pas du tout, mais quelque chose pour que cette personne, elle dise « oui, mais Dieu est vivant », parce que je vois dans la vie de... Et c'est accessible parce que lui a pu se convertir, moi aussi je peux. Vous voyez, frères et sœurs, il y a tellement de gens autour de nous. Et ceux qui sont autour de Pierre, autour de David, ils ne sont pas autour de moi. Ils sont autour de... Voilà, chacun a des relations, des gens qu'il croise, qu'il côtoie. Et si nous prions et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'Esprit va nous pousser. Je vais terminer, mais dans les Actes au chapitre 8... À partir du verset 26, quand l'Esprit dit à Philippe d'aller, le Saint-Esprit l'a propulsé, l'a conduit jusqu'à un homme, un ministre, qui lisait le rouleau du prophète Ésaïe. Et cet homme était là, il ne comprenait pas. Et Dieu dit à Philippe, au travers du Saint-Esprit, avance à côté de ce char. Et il lui pose juste une question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me l'explique? Et commençant par ce texte, Ésaïe 53, il lui prêcha la bonne nouvelle de Jésus. Cet homme s'est converti. Il a été baptisé peu de temps après, il y avait un trou d'eau, il a été baptisé. Et qui sait si cet homme n'a pas amené l'évangile en Éthiopie. Puisqu'il y a eu des conversions en Éthiopie. Et il y a des chrétiens aujourd'hui. On ne sait pas si c'est le premier chrétien d'Éthiopie, un ministre. Mais c'est beau. Un homme sensible, Philippe, sensible au Saint-Esprit, il a été conduit pour toucher un homme, et cet homme a peut-être touché des centaines. Après, je ne sais pas. Vous voyez, il a obéi. Faisons de même les uns et les autres. Il n'y a rien d'extraordinaire à obéir à ce que le Seigneur nous demande. Et si nous allons dans la direction de Jésus, comme je l'ai dit, notre modèle, alors le Saint-Esprit nous remplira. Parce que c'est là où le Saint-Esprit veut remplir quand nous allons dans cette direction. Et manifestons, servons le Seigneur, cherchons à, dans la prière et dans le témoignage, vous savez, des fois on peut passer à côté d'occasions que le Seigneur nous donne. On peut passer vraiment à côté. Mais quand on est rempli de l'Esprit, on entend ce que les gens disaient. Et il y a une période là, cette période de crise sanitaire, mais également, en ajoutant cette période de Noël, c'est un temps favorable. Les gens sont dans le besoin. Pas un besoin spécialement matériel, mais un besoin spirituel. Les gens sont dans l'angoisse. Vous rendez compte s'ils entendent une parole d'espérance? On peut entendre ces cris, on peut entendre ces souffrances avec l'oreille interne. On peut entendre cela. Parce qu'il y en a, ils sont désespérés. Et je le comprends, sans Dieu, on serait pareil. Hein, mais Christ est notre assurance, notre espérance. Nous l'avons reçu, il vit dans notre cœur. Les autres, ils se disent, mais comment ça va faire? Il va y avoir peut-être une troisième vague, et puis peut-être il y aura un autre virus, et puis il sera peut-être encore plus... Et nous allons mourir comme ça. Non, ils ne vont pas mourir comme ça, mais ils vont vivre avec le Seigneur dans leur cœur. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur, merci parce que tu nous considères, toi. Nous, on se considère des fois comme rien, comme... incapable de quoi que ce soit, et en réalité c'est cela, mais toi tu nous considères, tu nous appelles. Seigneur, tu es celui qui vraiment de la considération pour nous, tu nous aimes. Et Seigneur, toi tu sais ce que tu vas faire avec chacun d'entre nous, Seigneur. Je te prie que l'Église retrouve sa mission du premier siècle, sa vocation réelle. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs et moi-même, Seigneur, dans la mission du témoignage. Remplis chacun du Saint-Esprit, afin que nous te servions là où tu nous as placés. Seigneur, nous te prions que dans ces semaines et ces mois qui viennent, nous puissions voir des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes se convertir et dire, voilà, j'ai entendu le témoignage et j'ai été touché. Seigneur, nous te prions parce que c'est toi qui nous envoies. C'est toi, le message, il t'appartient à toi. La puissance, c'est toi qui la donne. Et la confirmation, c'est toi qui la fais. Seigneur, nous voulons tout simplement être ces instruments, faibles, mais remplis du Saint-Esprit, forts. Merci, Père. Amen.